Nous avons rencontré un problème technique lors de l'enregistrement de cet épisode qui fait que la qualité sonore n'est pas bonne sur certains passages. Nous avons toutefois identifié l'origine du problème et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Nous vous prions d'accepter nos excuses et espérons que vous trouverez cet épisode intéressant. Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous rappeler que le 15 décembre, nous serons à l'afterwork de l'OCIR, donc au bar La Colloque, qui se trouve 15 rue du Croissant à Paris. Vous pourrez également y retrouver nos collègues du comptoir Sécu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la BotConf qui s'est tenue à Paris, donc les 2, 3 et 4 décembre 2015. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Jean-François Audenard, Vladimir Collat, Nicolas Ruff, Hervé Schauer,
bonjour à tous,
Stéphane Borsmeyer,
bonjour,
Éric Fraissinet,
bonjour,
et Renaud Bidou.
Salut.
Alors, Éric, cette BotConf, déjà, c'est la troisième occurrence, c'est ça?
Troisième, ouais, troisième année. On a commencé en 2013 à Nantes, en 2014 à Nancy, et cette année à Paris, chez Google, pendant trois jours, avec 250 places assises, 265 personnes inscrites, et 26 présentations, courtes et longues, et puis des lightning talks aussi. Voilà, un programme très dense sur les trois jours. Aucun break entre les présentations, sauf pour prendre le café, aller manger, et puis sourire, discuter, voilà.
Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la BotConf, en fait, qu'est-ce qui la caractérise?
Alors, c'est une conf centrée sur un sujet particulier, la lutte contre les botnets. Donc, c'est la seule règle pour les soumissions. Il faut que ça contribue à la compréhension des botnets, et à l'appréhension des méthodes de lutte contre les botnets. Donc les botnets, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé, je crois, sur notre podcast. Les botnets, c'est des réseaux constitués des machines infectées par des logiciels malveillants qui communiquent avec une infrastructure de commande et de contrôle qui peut prendre plein de formes différentes. Parmi les formes les plus discutées cette semaine, l'utilisation du DGA pour camoufler la position des serveurs de commande et contrôle.
On a d'ailleurs fait un épisode à ce sujet également.
Exactement, Domain Generation Algorithm, donc pour camoufler l'adresse IP derrière des noms de domaine qui varient dans le temps, par exemple.
D'ailleurs, si nos auditeurs souhaitent avoir plus d'informations sur les botnets, ils peuvent aussi récupérer, télécharger ta thèse.
Oui, on mettra le lien, je suppose.
Avec plaisir.
Voilà.
Donc, si on revenait à la conférence, alors quelles sont les conférences qui vous ont marqué?
Alors moi, il y a plusieurs conférences qui m'ont marqué. Mes trois préférées, c'était celle sur le sandboxing, celle de l'ANSI, et aussi celle sur le botnet dont je ne suis pas capable de prononcer le nom, PodMockup.
Comme ça s'écrit.
Voilà, tu prends dans les détails des groupes.
Vas-y, je t'en prie.
J'ai particulièrement apprécié celle sur le sandboxing, car il est toujours intéressant de voir une technique qui semble être établie et être la référence ici le sandboxing, mais en fait on se rend compte après l'analyse du gars qu'on est assez proche de l'amateurisme et que les solutions de sandboxing proposent plusieurs dizaines de moyens de les détecter. Bon, après pour modérer le propos, tu peux te dire que ce que faisait le gars, c'est qu'il faisait ses propres virus, donc les envoyait sur différentes solutions de sandboxing qui exécutent le binaire, et de là récupérer plein de traces, par exemple le type de CPU, le nombre d'icônes sur le bureau, des traces réseau, plein de choses comme ça, et permettrait de qualifier les sandbox. Et souvent, c'était des Windows XP avec des fonds d'écran de base, très peu d'icônes sur le bureau, des CPU de serveur, donc plutôt des Xeon que des CPU de poste de travail classique, ce qui permettait facilement de détecter que c'était une sandbox et non pas un vrai poste d'un utilisateur. Bon, après, pour modérer le propos, tu peux te dire qu'un binaire qui est exécuté, qui récolte tout ce genre d'informations, déjà, ça peut être considéré comme un comportement un peu louche. Mais bon, voilà, c'est-à-dire toutes les solutions de sandboxing aujourd'hui ne sont pas forcément encore au point.
Alors, pour modérer aussi le propos, on peut dire que le sandboxing peut être utilisé dans deux cas d'usage. Du reverse engineering, et là on va chercher à comprendre tout ce que fait le malware. Donc là c'est vraiment très important d'avoir des méthodes d'anti-sandboxing poussées. Après, aussi, on peut faire du sandboxing simplement pour déterminer l'innocuité du fichier. Est-ce que le fichier est un fichier sain ou pas? Et là, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre.
C'est sûr que tu ouvres un PDF qui t'exécute un binaire, qui lance un processus derrière, je peux te dire que forcément, c'est louche. Donc là, effectivement, c'est pertinent, donc c'est le type de cas. L'autre conf que j'ai vraiment adoré, c'est celle de l'ANSI sur les interférences électromagnétiques volontaires ou intentionnelles. Là, j'étais vraiment impressionné.
Alors, mais ça permet de faire des botnets?
Ça permet, en fait, ils vont utiliser comme un canal de communication entre l'extérieur et un environnement, en fait, coupé de tout le reste. C'était le gap,
Air gap,
le système coupé de tout réseau, avec son réseau dédié, etc. Communiquer avec rien, et il essaie de trouver des moyens de communication. Donc, il y a plein de travaux qui ont déjà été faits. Sur, je sais plus, l'électricité,
la lumière,
le coût du scanner, on allume la lumière du scanner ou l'imprimante pour faire transiter la donnée, des choses comme ça. Et par des ondes électromagnétiques arrivent à augmenter la température des composants, détecter ça au niveau software et communiquer par ce biais-là avec l'ordinateur.
Je me permets de corriger un peu, il n'augmentait pas la température des composants, il faussait le thermomètre pour lui faire croire qu'il faisait plus chaud.
Et ce qui permettait donc comme ça de communiquer, d'avoir vite à vite un canal de communication, plutôt dans un seul sens. C'est très intéressant.
Oui, en fait, l'idée d'une telle présentation et de tels travaux, c'est de montrer qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément en termes de moyens de communication. Et surtout, c'est important en termes de, dans les types d'attaques qu'étudie l'ANSI, de réfléchir un petit peu en dehors des sentiers battus, parce qu'ils vont parfois avoir affaire à des attaquants qui vont plus loin. Parce que la cible se protège beaucoup mieux que d'autres. Et donc, forcément, il faut évoquer toutes ces pistes-là.
Et qui ont les moyens aussi d'attaquer.
Exactement. Parce qu'il y a un temps, les moyens, voilà.
Néanmoins, la question d'Hervé reste pertinente. Il y avait certains des exposés ici qui portaient sur des questions très intéressantes et très générales de sécurité informatique, mais pas spécifiquement sur les botnets. Donc, plutôt revenir à, par exemple, OpenMockup, qui lui, par contre, était un parfait exemple de beau botnet.
Oui, parce que c'est un botnet qui est finalement pas si connu que ça. Alors, il y a le chiffre des 15 millions de bots qui a été annoncé, mais en fait, c'est 15 millions au total. Mais actuellement, apparemment, il y aurait donc 500 000, en gros, postes infectés par le bot. Donc, ça reste un truc quand même assez conséquent, et finalement, qui passe un peu sous les radars.
Comme Sality, qui a été évoqué aussi plus tard.
Qui a été présenté l'année dernière aussi, je crois.
Et l'année d'avant. OpenMockup, on y revient chaque année.
C'est le fil rouge.
Et là, c'est un update. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait contre aussi. Et oui. Donc c'est aussi un signal intéressant.
Une autre conf qui était rigolote, c'était celle sur Dark Comet. Bon, alors en soi, elle était intéressante, mais ce qui était rigolo, c'est que l'auteur de Dark Comet, qui est français, sur Twitter, demandait à avoir accès au flux en streaming pour pouvoir voir la conférence ouais. Lui-même.
Qu'est-ce qu'on dit de lui?
Voilà.
Et donc, on n'en parlera pas?
Non.
Il y a aussi une conf que j'ai particulièrement aimé, c'est celle sur Regina. On voit en fait que c'est pas un RAT, un Remote Access Trojan, mais vraiment une technologie apparentée comme un botnet, avec des acteurs de niveau étatique. Et ça, on voit que ces mêmes technologies sont utilisées par différents acteurs, des cybercriminels de différents bords. Et la présentation m'a particulièrement intéressé parce que j'ai trouvé que l'approche instrumentalisation que le chercheur a adopté simplement pour venir à commencer à comprendre un peu quel était un peu le fonctionnement et le principe de fonctionnement des RPC, donc des appels de procédure distants au sein du réseau, et qui lui a permis de découvrir, de voir, d'étudier son fonctionnement sans aller dans les technologies de reverse engineering. Était assez pertinent. Et puis aussi le fait que ce botnet crée un sur-réseau de type VPN avec un adressage privé pour une communication entre les machines, on voit quand même que c'est quelque chose d'assez évolué.
Pour les auditeurs, on peut peut-être préciser que, enfin, je sais pas comment dire, Régine, Régine, je pensais vous dire Régine, c'est un virus botnet qui a été utilisé pour espionner en particulier le gouvernement allemand. De la part, c'est ça.
Les chercheurs indépendants.
Les chercheurs indépendants aussi. Également.
Donc, il y a eu un très bon témoignage à l'ARCSI sur le sujet.
Voilà. Plutôt étatique.
Et sinon, après, il y a deux confs assez plus techniques, hein, mais qui montraient aussi le côté créatif, c'était sur un peu les techniques utilisées en pôle, par les attaquants en Pologne et au Brésil, avec beaucoup de créativité et peut-être des moyens techniques assez classiques, standards, et qui montraient qu'en fait, bonne technique d'ingénierie sociale, des choses simples. Je remplace le browser par une fenêtre préconçue pour forcer l'utilisateur à effectuer des actions. Et ben, c'est techniquement très simple, mais c'était super efficace. Et ça aussi, ça, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas trop l'oublier. On a des fois un peu tendance à mettre la technique en avant, alors que les choses simples, la naïveté, les réactions humaines instinctives sont parfois particulièrement efficaces pour pas mal d'attaques.
Parce que c'était plutôt intelligent, quoi. Sur une page web, ça te dissimulait, ça te mettait comme si c'était un lecteur de PDF avec un petit compteur qui tourne et qui avance pas. Ensuite, ça te donne l'impression que ça ouvre le document avec Word, en Office, donc ça te met la fenêtre d'ouverture en Office, ça te met que ça n'ouvre pas le document et que ça t'oblige à installer un plugin, et toi tu installes le plugin et voilà, tu fais.
Ce qui était surtout intéressant dans ces deux conférences, c'était le côté extrêmement local de certains des phénomènes qui étaient décrits, parce que les botnets, la plupart d'entre eux sont internationaux. On dit l'internet, c'est toute la planète. Un attaquant en Ukraine peut contrôler un botnet qui a des machines dans le monde entier et attaquer une cible en Chine, aux États-Unis, n'importe où. Alors que là, on avait des descriptions de souvent de phénomènes qui étaient très spécifiques de marchés de botnets ou d'outils autour des botnets, d'outils de malware, de cours de malware qui étaient très locaux. Et c'est un phénomène intéressant de voir qu'à l'époque de la mondialisation et de réseaux informatiques mondiaux, on a encore des phénomènes locaux. Je me souviens au Brésil, il y a quelques années, il y avait eu un malware qui se connectait au routeur et qui changeait le résolveur DNS par défaut. Et une fois qu'on a changé le résolveur DNS, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et qui apparemment exploitait un problème spécifiquement brésilien, une box qui était livrée uniquement au Brésil à la plupart des FAI brésiliens. Et donc où les attaquants des victimes étaient uniquement brésiliens. Donc on n'a pas encore, dans le monde du malware, on n'a pas encore un système complètement mondialisé où la nationalité n'a plus d'importance.
Ça dépend des stratégies, mais on a eu cette présentation intéressante effectivement sur le paysage brésilien des menaces avec des spécificités. On a encore cité le Boleto. À chaque fois, ils vont s'adapter à la cible et adapter la menace précisément à ceux qui cherchent à cibler.
Et puis parfois, le Boleto est un moyen de paiement utilisé au Brésil, puisqu'évidemment, les délinquants s'adaptent aux moyens de paiement locaux.
Et il y a aussi des adaptations aux applications utilisées localement qui sont très disparates d'un pays à l'autre. Et puis il y a les grands classiques, Maroc, Algérie, Pakistan, Inde.
Et ou éviter des pays, hein, on a cité encore plusieurs fois le fait que, avec des preuves là, dans ce cas-là, de toute une région du monde qui était évitée par un groupe criminel. C'était une présentation du dernier jour. J'ai oublié laquelle.
Pas de Dark Comet.
C'est Dark Comet.
Ouais, c'est Dark Comet. Ouais. Ouais, Dark Comet.
T'es sûr?
Ça a été fait deux fois. La même liste de quatre pays évités a été citée dans deux
présentations différentes. Ouais, c'est CryptoWall, exactement, ce matin. C'était CryptoWall, donc, ce matin, où la Russie, le Bélarus, l'Ukraine, et puis un peu plus tard, l'Arménie, l'Iran, en fait, étaient évités par la configuration de CryptoWall, parce que, peut-être, c'était l'hypothèse que donnait le speaker, il a des clients là-bas et il cherche à se protéger.
Alors on a parlé de JavaScript.
Ah, alors
c'est pas terrible. J'ai pas aimé. J'ai failli m'endormir pendant la conf.
Après la conf de Renaud Bidou, est-ce que vous pouvez encore surfer sur Internet sans nos scripts?
Comme ce que tu as dit, c'est que pour l'instant c'était que des travaux de recherche et qu'il n'y avait pas d'attaque dans la vraie vie qui exploitait tout ça. Pour l'instant, ça.
Enfin, tout ça combiné, mais il y a plein d'attaques qui exploitent du JavaScript.
Mais je suis assez d'accord. Moi, j'étais pas à la conférence, hein, et donc tu peux résumer ce que tu as dit. Et est-ce que la conclusion, c'est que les gens vont enfin comprendre qu'il faut faire tourner leur navigateur favori dans une machine virtuelle?
J'ai mis bout à bout un certain nombre de travaux de recherche pour montrer qu'on était capable de faire un botnet complet en JavaScript. Donc que ce soit l'injection, que ce soit la propagation, bref, tous ces éléments-là. Également, évidemment, la charge, les opérations, tout ça peut être réalisé aujourd'hui en JavaScript. JavaScript ou ECMAScript, en fait, de manière plus générale. C'est en fait tout ce qu'on va retrouver également dans Windows, dans Adobe, etc. Donc ça, c'était, on va dire, l'élément général. Maintenant, est-ce que les gens doivent faire tourner leur navigateur dans une sandbox? Bah oui, puis dans l'absolu, il faut aussi nos scripts. Et puis, moi, je pense qu'un links sur un MS-DOS, comme ça, c'est carrément sécur. Maintenant, il faut bien voir que les gens ont leur PC, ils ont leur tablette, ils ont leur machin, et ils veulent quand même quelque chose de relativement pratique. Donc ce qui fait le jeu des attaquants, de la même manière, c'est le vecteur initial, c'est souvent le fait de cliquer sur un bouton ou sur un fichier. On sait très bien qu'on envoie un fichier Word avec un gros bouton rouge en disant ne cliquez pas dessus, le premier truc que les gens vont faire, c'est cliquer dessus. Donc ça, c'est relativement compliqué, et je pense que on peut essayer de former les gens. Ça fait 20 ans qu'on essaye. À mon avis, c'est une solution, c'est une partie de la solution, mais c'est loin d'être la solution totale. En revanche, c'est très bien qu'à lutte contre les botnets, c'est également le fait de bloquer les canaux de commande control, c'est limiter les impacts. En fait, c'est toujours le principe de défense en profondeur, entre guillemets. Certains, c'est un gros mot, mais en gros, à chaque fois, limiter l'impact de chaque étape. C'est vrai que ça devient plus compliqué de faire exécuter quelque chose sur le poste, et puis si se balader sur le réseau pour la propagation, c'est plus compliqué, etc., etc. À la fin, on réduit considérablement. Il faut voir quand même qu'un botnet, son efficacité, c'est sur le volume. Donc si au lieu d'avoir 1% des gens qui... Non, tu n'es pas d'accord, Eric?
Non, ça dépend des botnets et de leurs objectifs. Tu as des botnets qui ont besoin que de quelques victimes pour faire un mal, notamment sur l'espionnage.
Ah, oui. Alors,
pour les attaques par déni de service, par exemple, ça peut être la qualité de la connectivité, la rapidité de la machine. Donc, ça peut être plus intéressant d'avoir un botnet de 1000 serveurs bien connectés que de 10 000 PC au fin fond d'une ligne ADSL.
Et puis, des fois, ça peut être, si tu en as 1000 en France, c'est plus intéressant que 1000 dans un autre pays dans lequel ça ne t'intéresse pas de récupérer des infos.
C'est vrai. Alors, en fait, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je considère le botnet plutôt comme... il y a les trucs de masse pour un crypto ou ce genre de choses, mais là, c'est indépendamment. À partir du moment où on va essayer de faire l'espionnage, je considère déjà ça plus comme une attaque ciblée, avec une technologie de botnet, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ça rentre plus vraiment dans ma catégorie. Et là, je pense que ce type de botnet en JavaScript aura beaucoup moins d'effet, parce que ciblé, il faut quand même avoir le type qui a son Windows, qui a un Chrome, etc., etc. Donc, à mon avis, ce sera beaucoup moins efficace.
Ça dépend qui tu cibles. Et justement, si l'attaquant fait un environnement de sa cible et qu'il identifie que, oui, ils ont plein de protections, mais ils ont Windows de telle version avec tel type de navigateur, ce sera plus facile peut-être avec du JavaScript qu'une page dans un mail qui sera plus très ralenti.
Je suis d'accord.
Voilà. C'est vraiment dépendant de tout ça. Et moi, je trouve que c'est important la présentation que tu as faite parce que c'est un des vecteurs principaux, la navigation.
Ouais, je pense.
Et le problème du NoScript, c'est que tu es obligé de le désactiver sur certains sites. Tu es obligé d'autoriser les scripts de plusieurs natures sur ces sites, parce que tu t'en sers tous les jours. Et tu ne peux pas sélectionner le contenu malveillant du contenu bienveillant à l'intérieur du site. S'il est compromis, tu vas te faire avoir. Et dans beaucoup de cas, c'est les sites compromis qui vont t'apporter des problèmes.
Je voudrais également préciser sur la remarque d'Hervé. Je suis d'accord à faire tourner en sandbox. C'est une solution, même si cette sandbox ne soit pas connectée ou n'ait pas d'accès au réseau interne.
Justement, est-ce que la solution, c'est pas d'avoir deux accès Internet, un dans l'entreprise avec un NoScript ou du script qui est strictement limité aux applications purement internes avec toutes les vérifications d'usage, et puis un autre accès, beaucoup donnent des tablettes aux gens, qui, elles, utilisent un tout autre accès Internet, où là, on a tous les beaux sites web avec du JavaScript.
Alors, il y a un double problème, là, c'est que d'abord, il faut bien passer des données. Et on a récupéré le PDF avec la tablette, après, on a bien besoin à l'intérieur. D'autre part, le coût de réserver ça aux applications internes, moi, je ne sais pas, mais les applications internes, en général, elles sont comme tout le monde, elles servent le jQuery, le Google.
Et ça sent pire que les autres.
et donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui peuvent se permettre d'avoir une infrastructure de bibliothèque et JavaScript vérifiée et servie en interne. En fait, ça me semble rare, même. Bon, je suppose que des boîtes comme Airbus ou Boeing font ça, mais ça doit être relativement rare.
Surtout que de plus en plus, avec le cloud, les entreprises externalisent même les applications internes, donc les applications internes se retrouvent sur du cloud, Amazon, Google ou
autre. Ouais, effectivement, quand c'est vraiment sensible, on fait ça. On internalise. Les librairies sont chargées en interne. Ouais, mais en exemple que je connais, pour le coup, effectivement, on pourrait même rien récupérer
sur le cloud hôte.
Et donc oui, la solution de l'isolation est évidemment la bonne dans le principe, mais ce qu'elle veut montrer, ce qui est rigolo dans l'exposé sur l'ERGA, parce que ça est bien montré, c'est que le problème, c'est aussi que des fois, on veut communiquer, on veut envoyer quelque chose. Quand il y avait eu l'attaque contre TV5, un des commentaires les plus idiots qu'il y avait eu, c'est quelqu'un qui disait que les journalistes ne devraient pas ouvrir les pièces jointes de correspondants inconnus. Bah, dans ce cas-là, ils peuvent aussi bien tout de suite démissionner et faire un autre métier que le journaliste, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça.
C'est clair.
Sinon, on peut retourner au courrier papier.
Le problème, c'est que pour reprendre l'exemple, parce que le journaliste, c'était ça l'exemple, il ne choisit pas ce que fait son correspondant. Alors, il peut toujours lui dire, comme l'avait fait Snowden au début, je ne communique pas avec vous tant que vous n'avez pas installé PGP. Enfin, en général, on ne peut pas se permettre de faire ça dans la plupart des métiers. Les ressources humaines sont un autre bon exemple où on peut difficilement dire au candidat ne m'envoyez que des CV en ASCII.
Bon, écoutez, il y en a quand même un qui arrive à faire ça et ça marche.
Mais c'est une entreprise exceptionnelle.
Ça se plaint qu'il n'arrive pas à recruter.
Sinon, il y a d'autres conférences. Il y a des gens qui sont venus à Paris qui ne seraient pas venus dans une conférence équivalente aux États-Unis.
Alors, il n'y a pas de conférence équivalente, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de conférence ouverte équivalente sur les malwares et les botnets. Il y a des conférences fermées et il y a des conférences sur les malwares de niveau académique, donc plutôt dédiées à un public particulier. Mais il n'y a pas de conférence comme ça ailleurs. Alors, il y en a eu quelques-unes dans le passé, mais pas qui se sont répétées depuis.
Il y a eu une personne donc chinoise de Kyo 360.
Ouais.
Entreprise chinoise de sécurité qui était antivirus, qui est quand même venue, qui est même présentée.
Ouais. Ouais, il y a des Chinois, des Russes, un gars d'Afrique du Sud.
Et un États-Unien, un orateur États-Unien qui nous a fait un beau numéro très cow-boy. Il faut les tuer tous, faut les buter, genre le général Patton dans le film de Chaplin. C'était légèrement caricatural.
Ouais, mais il est excellent. Il te montre aussi une partie de la réalité. C'est les partenaires avec qui on travaille. Qui font du bon boulot, c'est-à-dire du boulot intéressant, et avec qui il faut dialoguer, essayer de trouver des façons d'atteindre le même objectif.
Attends, qui propose de les buter au M16 et pas à la calage, ça va.
Je crois que c'est un point important qu'on peut dire sur la conférence, c'est qu'il y avait plus d'étrangers que de Français dans le public. Et c'est une rare conférence en langue anglaise, entièrement langue anglaise, enfin, même les Français parlaient anglais. Sur le sol français. Enfin, il y a Akin Paris,
Non, mais moi j'ai connu des conférences qui étaient strictement en anglais. Moi j'ai participé dans le passé à des conférences sur IPsec ou sur IPv6 qui avaient lieu à Paris et qui étaient exclusivement entièrement en anglais du début jusqu'à la fin et où finalement les Français ne représentaient que 15% du public. Mais ça plaisait à beaucoup de gens que la conférence ait lieu à Paris parce qu'il y a un cadre intéressant. Donc ça existait dans le passé, mais c'est vrai que c'est longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus. Et donc c'est une très très bonne chose que BonneConf renoue avec ça. Puis c'est bon pour notre économie.
Ah ouais, ça fait partie un tout petit peu du raisonnement. On fait travailler les entreprises locales, les traiteurs.
Ah bah la même conférence aurait pu être en Allemagne et faire bosser les Allemands.
Tout à fait.
Alors, tu disais qu'il n'y avait plus de conférence publique, mais enfin, il faut préciser que le BonneConf, c'est semi-public quand même.
Ah, bah, n'importe qui peut s'inscrire.
Oui, mais il y a la moitié des talks où le gars disait ne tweetez pas, ne prenez pas de photos, je ne veux pas streamer, ça ne sort pas de cette pièce, il y a 250 personnes avec ça.
On respecte ce que veulent les speakers, c'est ça qui est important. Et dès la première année, on avait du live streaming, et dès la première année, on a respecté ça, c'est-à-dire qu'on n'enregistrait que s'ils ont autorisé. Donc là, toutes les conférences qui ont été enregistrées cette année, ils ont tous accepté. Et on ne diffusera que s'il l'autorise à la fin. Et c'est normal de maîtriser à la fois ton image, les informations que tu diffuses et le public avec qui tu échanges. C'est quand même ouvert. La plupart des confs, il n'y a pas de live streaming comme ça. Même si dans le domaine de la sécurité, ça se fait beaucoup. La plupart des confs ne le font pas.
Il y a quand même une personne qui a précisé que sa sécurité physique, voire celle de ses collègues, pouvait être en jeu.
Oui.
Donc, c'est vrai que
il le prend au sérieux.
Il y a des photos de nous.
Nous, on est tranquillement en France. D'autres sont dans des pays où c'est plus risqué.
Ce passage, j'ai noté quand même que certains des orateurs et des participants avaient justement des faiblesses quant à qu'est-ce qui est autorisé ou pas. C'était pas toujours très clair. Et par exemple, plusieurs personnes ont cité le protocole TLP et j'ai eu l'impression que certaines personnes ne l'utilisaient mais sans bien le comprendre. Parce que j'ai vu un orateur annoncer sur ses slides TLP Green et après dire que ce qu'il disait était public. Or justement, TLP Green, c'est pas complètement public. Donc il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a aussi encore peut-être un petit effort de formation qui sera nécessaire, aussi bien chez les orateurs que chez le public, sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, et sur la sémantique exacte de ces quatre couleurs.
Alors c'est un public très varié, et donc c'est vrai qu'ils n'ont pas tous, ils n'ont pas des certes. Il y a eu très peu de présentations de certes. Ils n'ont pas cette culture-là. Et ouais, peut-être de la même façon que c'est la première année qu'on publie une social media policy, une politique réseaux sociaux. Peut-être que l'année prochaine, on fera une petite explication sur.
C'est RBA. Hein,
donc.
Hervé
n'était pas à la séance de début de la conf et donc il n'a pas entendu le passage où je disais qu'il fallait mettre son téléphone sur silence.
Et donc une formation des orateurs sur la TLP.
Alors justement,
le coup du TLP Green, me semble-t-il, avait été vraiment le point le plus difficile. Enfin, il faut dire que le code TLP est bizarre de ce point de vue-là et apparemment, ce n'est pas vraiment bien compris.
On a déjà parlé de TLP juste au passage dans votre conf, on a dit TLP Rainbow.
Alors justement, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est TLP ?
Normalement, TLP, Traffic Light Protocol, c'est une série... C'est une classification des informations qu'on distribue, indiquant pour chaque niveau de classification qu'est-ce que les gens qui reçoivent l'information peuvent en faire. Il y a quatre niveaux. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une version absolument standard. J'utilise toujours celle du CERT-US, ça me semble être la référence. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une norme écrite quelque part qui décrive TLP, par la page Wikipédia peut-être. Et donc, il y a dans les quatre niveaux, ça va de rouge à « vous ne le communiquez à personne ». Gardez pour vous, jusqu'à blanc, c'est complètement public. Et justement, il y a un niveau vert que beaucoup de gens croient être public. Et en fait, vert normalement, c'est on publie tant qu'on veut dans la communauté dont on fait partie, mais on ne le rend pas public. Donc par exemple, on ne peut donc tweeter que ce qui est TLP white. Ce qui est TLP green, normalement, ne peut pas être tweeté.
Ça serait un peu l'équivalent de diffusion restreinte dans le domaine militaire.
Je ne connais pas bien les codes militaires, donc je m'abstiens là-dessus.
Oui, c'est ça revient du restreint... Pour du confidentiel et rouge pour du secret.
Enfin, en même temps, Nicolas avait raison, quand on une information par exemple TLP RED distribuée à 260 personnes qui ne font l'objet d'aucune sélection, puisque n'importe qui peut s'inscrire, ça ne peut pas être vraiment secret.
On fait attention, mais les inscriptions sont ouvertes.
Finalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on a appris de plus intéressant de cette session de la conférence ?
Beaucoup de choses. J'ai retenu le premier jour quelque chose de paradoxal ou de surprenant. C'est-à-dire que se faire avoir par un malware, enfin, le but du malware, c'est de compromettre, d'avoir le maximum de gens. Or, quand tu es chercheur et que tu cherches à te faire compromettre pour analyser le malware, ouais, et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Ouais. Donc là, ils ont même un speaker qui a donné l'exemple en fait, d'un malware qui délivrait une fausse charge quand il se rendait compte qu'en fait, il commençait à être analysé. Donc, il y a là un paradoxe que j'ai trouvé très amusant. Et
ça veut surtout dire que les logiciels malfaisants sont ciblés et qu'ils tombent dans leur cible de plus en plus et de moins en moins en dehors. Non, c'est pas ça ?
C'est encore Hervé. Hein.
Mais c'est probablement la NSA qui est en train d'essayer des techniques différentes pour pénétrer dans son téléphone et qu'on t'a fait un peu à côté. Parce que moi, j'ai retenu aussi quand même de la conférence, moi qui ne suis pas anti-botnetteur professionnel à temps plein, j'ai aussi retenu que les auteurs de les gérants de botnet, c'est comme tous les informaticiens, ils sont imparfaits, ils font des erreurs, des fois amusantes comme l'erreur de l'opérateur modulo mal utilisé qui faisait que certains caractères n'apparaissaient pas, ou comme celui qui avait laissé sur le site web du centre de contrôle et de commande, un répertoire slash image pas protégé. Donc, Ça peut être bien sûr des fausses erreurs faites délibérément pour tromper le chercheur. Enfin, là, on arrive quand même à un niveau un peu compliqué. Ça peut être aussi simplement que les auteurs de malware sont comme tout le monde, se trompent, font des erreurs, sont pressés, travaillent dans des conditions pas parfaites. Donc il y a aussi une... Faut pas non plus les voir comme des génies extraordinaires, mais plutôt comme des professionnels compétents. Et ça, la lutte contre les botnets prend un autre aspect quand on les regarde comme ça. C'est pas des gens différents de nous, finalement. Enfin, moralement et légalement, certainement. Mais techniquement, ils travaillent dans des conditions qu'on connaît et qu'on comprend.
Non, nous, on fait pas d'erreur.
Hein. Moi, c'est... Pour moi, ça soulève une question qu'on se posait ce midi, c'est en France, nos criminels, est-ce qu'ils sont passés à l'ère numérique, en dehors de l'ère première, est-ce qu'on a quand même des gens qui font des botnets, qui sont compétents?
Comment se fait-il qu'on n'ait pas de botnet souverain? Il faut immédiatement faire un impôt pour pouvoir financer la création d'un botnet souverain.
Est-ce que notre criminalité est encore à l'ancienne?
On a la chance d'être dans un pays où l'essentiel de ceux qui ont un minimum de compétences en sécurité informatique trouvent du boulot. Et dans d'autres pays, c'est plus difficile. Et donc, tu as un effet mécanique, économique, qui fait que dans ces pays-là, ils vont aller vers là où ils vont trouver du boulot, c'est-à-dire du côté noir de la force. C'est assez évident, hein, la cartographie est assez claire sur le plan économique. Et peut-être un deuxième enjeu, c'est que ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels on apprend beaucoup de choses dans les écoles. Effectivement, ça apporterait des risques supplémentaires par rapport à certains publics, mais leur faire toucher du doigt comment fonctionnent précisément toutes ces petites bêtes pour mieux lutter contre, c'est des évolutions qu'on est en train de faire passer en France et c'est risqué. Ça veut dire qu'il va y avoir des jeunes qui vont regarder ça d'un peu plus près et il faut l'accompagner correctement. Dans d'autres pays, ils apprennent à travailler sur ces choses-là très précisément et ils le mettent en œuvre derrière. Et donc, ce qu'on constate en France, pour l'instant, la plupart, c'est des gars qui achètent des kits tout faits et qui les mettent en œuvre. C'est beaucoup des rats. Il y a eu quelques crypto-lockers, vraisemblablement, puisqu'ils ont été pas mal diffusés sous forme de kits, des botnets bancaires, des ceux, c'est autre variante. Des développeurs de code malveillants, il n'y en a pas.
En dehors de Dark Comet, oh, c'est déjà pas mal.
Il n'y en a pas des masses. Voilà. Plein de raisons qui font que c'est pas le cas et on s'en passe bien. Et t'as un autre paramètre qui est que les attaquants sont toujours dans d'autres pays. Et donc s'il y en a un qui est en France, s'il est pas bête, il va plutôt s'en prendre à d'autres pays. Et donc il sera un petit peu plus difficile à détecter aussi.
Et puis la jeune s'en fait néant aujourd'hui. Il a juste passé à la télé.
On est tous jeunes. Encore, on va voir Nicolas. Nicolas qui fait son vieux.
On est tous jeunes, mais expérimentés.
Voilà.
Il y a une autre discussion intéressante qu'il y a eu quand même, que je ne me souviens pas qu'on avait eu au précédent BotConf. C'était parti d'un Lightning Talk sur un système de nommage des botnets, parce que là encore, pour quelqu'un comme moi qui fait pas du botnet toute la journée, c'est dur de s'y retrouver. Ils ont tous des noms rigolos, des fois plusieurs botnets ont le même nom, des fois on n'est pas sur les mines. Enfin, il y a un problème de classification. Exactement. Et il n'y a pas, je crois que l'orateur de la Code suggérait la création d'un référentiel analogue au CVE pour les failles de sécurité. Et actuellement, on a l'excellent site de botnet.fr que moi j'utilise comme étant la référence là-dessus, mais qui n'a pas l'air d'être forcément reconnu comme ça par tout le monde. Et donc, ça pourrait être intéressant de faire ce travail-là. Quand j'ai présenté l'attaque contre les serveurs DNS de la racine, une des questions que m'a posé tout le monde, c'est « Mais c'est quel botnet ?» Alors que moi, je ne suis pas un grand expert en botnet, je fais juste un botconf une fois par an, je ne savais pas répondre et j'étais bien embêté.
Ouais, c'est un vrai problème que j'évoque dans ma thèse, mais qui est loin d'être résolu. La classification d'une part et le nommage d'autre part. Quand tu as un nouvel échantillon, tu as tendance à te dire « Ah bah ouais, je vais lui donner un nom. » Et puis, comme ils ont tous une lecture différente des échantillons, ils vont trouver... On l'a vu cet après-midi avec Mousse, enfin l'élan. Je n'arrive pas à le dire avec l'accent canadien. Tu donnes le nom, c'est toi qui donnes le nom, tu es le premier à donner le nom. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a donné un autre nom au même truc il y a 3 semaines ou 4 mois, et tout ça se collisionne. Il y a un truc qui est clair et que j'ai observé, c'est que parmi les éditeurs de sécurité, il y en a qui sont très efficaces à la classification. Et je n'aurai pas de nom.
Et au partage
Non, alors partage, c'est pas une question, mais vraiment, qui savent bien classifier et ils font bien la différence entre les différentes familles de botnet et ils ont des choses très précises, et d'autres qui sont beaucoup plus floues. Et par exemple, vous pouvez faire le test chez vous, si un jour vous avez votre antivirus qui vous dit qu'il y a un Zbot sur votre machine, donc Zbot c'est censé être Zeus, il y a 99% de chances que ça n'ait rien à voir avec Zeus, c'est juste quelque chose qui ressemble à Zeus. Parce que ça va être le même packer, hein, le même outil pour le protéger, empêcher l'analyse qui a été utilisée. Donc il y a un vrai enjeu, mais il n'est pas que dans les noms de l'objet, il est aussi dans la capacité à rapidement classifier. Et là, il y a beaucoup de recherches sur ces choses-là. Une des présentations des Lightning Talks, c'était aussi sur la classification. Là, je vous ai parlé de BINSEC, hein, d'instrumentation et de classification, bah c'est justement ce sur quoi ils travaillent.
Oui, il faut aussi donner des logos, hein, sinon.
Alors ça, c'est sur les APT plutôt, non? Non, ou sur les vulnérabilités. Ouais.
C'est un problème que connaissent d'autres sciences. Hein. Si on prend la paléontologie ou la linguistique, c'est deux domaines où il y a une forte motivation pour le chercheur qui a trouvé quelque chose à dire que c'est nouveau, donc à lui donner un nouveau nom, dans l'espoir qu'après ça restera, et où donc on se retrouve des fois avec le même animal ou la même langue désignée par plusieurs noms, et on a du, et ça prend du temps de s'y retrouver. Donc c'est un problème, je dirais, déjà connu et pour lequel... Par exemple, dans la paléontologie, le choix qui a été fait, c'est que c'est la première description qui comptait. Et donc, si on découvre après d'autres, si on découvre après que c'était en fait la même bestiole, il n'y a que le premier qui gagne. Ce qui encourage à publier très vite et parfois très mal. Il n'y a pas de solution idéale. Non.
Vlad, pour conclure. Tu voulais conclure, non? Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être?
Non, je voulais parler des coulisses et de ce qui s'est passé, l'organisation, ce qui était autour des conférences.
Ah oui, les coulisses.
Non, non, mais
personne n'est mort, sauf une femme, c'était...
Et il y avait des femmes à la conférence?
Oui, il y en avait.
Même parmi les orateurs, il y en avait deux.
Oui, mais c'était particulièrement bien organisé. Les buffets étaient excellents. Le Social Event était dans un endroit plutôt magnifique avec une très belle vue sur Paris. Une très bonne soirée. Enfin, j'ai été impressionné par la qualité de tout ce qui entourait la conférence.
Donc merci aux sponsors.
Non, merci aux organisateurs. Bien sûr, non, mais merci à tout le monde. Merci aux
sponsors. L'argent ne suffit pas.
Le budget, il est ce qu'il est. On a fait avec un budget bien calculé et le meilleur choix possible. Et cette année, le budget est pile à l'équilibre. On doit être à 100 ou 200 euros d'équilibre. Compliqué, mais on y arrive.
Alors, il y a des gens qui s'intéressent qu'à la nourriture. Moi, je tiens à signaler que le Wi-Fi marchait drôlement bien. Très rapide, très fiable, très stable et avec IPv6.
Ça, c'est très dépendant du lieu qui t'accueille. Et effectivement, c'est pas facile à organiser. Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Un message, ceux qui ouvrent des nouveaux lieux pour accueillir des conférences, prévoyez le Wi-Fi tout de suite et de bonne qualité, comme le disait Stéphane. Hein, c'est indispensable.
Et en IPv6.
Avec la connectivité qui va bien, adaptée.
Et avec un résolveur DNSSEC validant.
Donc, nous vous invitons à re-télécharger, si vous en souvenez plus, des épisodes sur IPv6, sur DNSSEC et tous ces sujets.
Peut-être un petit mot sur l'année prochaine.
Oui, alors l'année prochaine, justement. Ouais.
Avant que tu évoques d'autres sujets. Donc l'an prochain, on sera à Lyon, du 30 novembre au 2 décembre. Donc on n'a pas choisi les lieux, etc. Mais on a choisi démocratiquement entre les organisateurs.
Comme le Lightning Talk.
Non, démocratiquement. Le lieu, et donc ce sera Lyon. L'idée de tourner un petit peu en France, c'est de rapprocher tout ce petit univers des Français qui peuvent être intéressés à ça. Dans la région lyonnaise, dans la région de Grenoble, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et puis c'est de rapprocher aussi la France des gens qui viennent du monde entier, leur faire connaître. Si on le faisait tous les ans à Paris, au même endroit, un, ça coûterait cher, et deux, peut-être qu'ils auraient moins d'intérêt à venir tous les ans. Ça fait partie un petit peu du secret de la recette, là, pour réussir la conférence.
Bon, eh bien, merci Eric, en tout cas, pour l'organisation de cette conférence. Alors, comme à chaque épisode, Vladimir va nous présenter la Minute Fail. Alors, tout d'abord, Vladimir, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Minute Fail?
Alors, la Minute Fail est un moyen de présenter un événement, un incident passé. Comme d'habitude, je précise que le principe n'est pas d'accueillir les gens, mais de prendre du recul avec humour. Je ne citerai donc aucun nom et modifie certains éléments. Alors, une nouvelle fois, cette histoire prend place dans un data center d'une entreprise. Il y a un peu moins de 3 ans, mais je ne vais pas aller plus dans les détails. Les peintures des salles du data center, il y a quelques années, ils ont décidé de tout repeindre. Donc, plutôt une bonne idée. Un peintre repeint carrément le système de déclenchement des incendies. Conscient de son erreur, il décide de gratter un petit peu la peinture sur le déclencheur et déclenche l'alarme incendie. Il a juste le temps de sortir de la salle avant qu'un gaz sous haute pression ne soit libéré dans la salle. Mais les bus de sortie du gaz génèrent alors une onde sonore de plus de 120 décibels qui rebondit sur les murs de la salle, en particulier dans les baies de stockage et les serveurs, entrant en résonance avec les têtes de lecture des disques durs qui se mettent à fracasser leur tous les plateaux des disques durs. C'est pas fini, malheureusement. Depuis près de 2 mois, les consoles centralisées de gestion des firewalls ne sont plus sauvegardées, parce qu'il y a un problème technique, et font partie des serveurs impactés. Donc, seule solution après la panne, reprendre les vieilles sauvegardes et recoder à la main tous les changements sur les firewalls qui avaient été effectués depuis, qui heureusement avaient été faits dans des fichiers Excel pour gérer le workflow décisionnel, et miraculeusement sauvegardés. Donc, encore une fois, nous avons 2 data centers, une infrastructure solide et coûteuse de réponse à tous les niveaux, une sauvegarde coûtant une fortune, mais pour des raisons de réduction de coûts, les équipes sont trop réduites, les gens surchargés, les arbitrages doivent être faits sur les problématiques en tant que critiques. Et voilà.
Fail.
Fail.
Échec en
oui. Pare-feu.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Bye bye.
Au revoir.